Merci. Oui, c'est vrai que c'est une joie de pouvoir se retrouver pratiquement toutes les années ici pour ces conférences sur amour et vérité. Oui, c'est vrai que ce thème sur l'appel, le ministère, etc., je crois que c'est quelque chose qui est d'actualité aujourd'hui. Nous allons le voir quand on voit l'ensemble, je ne parle que de la France, mais l'ensemble des églises évangéliques, peu importe la dénomination, mais quand on voit l'ensemble des églises évangéliques aujourd'hui en France, je crois qu'il y a urgence. Urgence de s'occuper de nos églises. Et c'est pour cela que Dieu appelle chacun de nous pour un ministère particulier. C'est vrai que pendant cette étude que l'on va faire, vous le comprenez bien que il va falloir quand même que je parle un peu de mon ministère. Alors, que Dieu le permette, l'année prochaine, je rentrerai dans les 40 ans de ministère. Amen. J'avais été consacré comme pasteur, Tim, tu étais là, en 1976 à Toulouse. Et donc, que dire? Les plus grandes joies, mais aussi les plus grandes douleurs. Des moments de pleurs, des moments où on est éprouvé, où on dirait comme Élie, Seigneur, prends-moi. Et à d'autres moments, c'est les plus grandes de vos joies de voir des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants venir à la repentance et de voir qu'ils avancent dans le Seigneur. Alors, je voudrais, au travers peut-être de trois textes de la Bible, trois passages, voir un peu cette progression sur qu'est-ce que c'est que l'appel? Est-ce que je suis appelé à un ministère? Alors, je veux dire, ne soyez pas dans l'attente d'une révélation de passages que vous n'avez jamais lus. Ça va être trois passages que vous avez sans doute lus une, deux, dix fois. Mais je crois qu'il est bon, de s'arrêter, de le regarder en détail. Alors, bien sûr, prenez vos Bibles. Et le premier passage, c'est dans Matthieu, au chapitre 9, je le répète, ne soyez pas étonnés de redécouvrir ce passage avec moi. Matthieu, chapitre 9. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ, pendant son ministère, dit. À un certain moment, verset 35, Matthieu 9, 35, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant tous les malades et toute infirmité. Verset 36, voyant la foule, et je vous demanderai d'être attentif parce que c'est en voyant la foule qu'il va prononcer ces paroles que nous connaissons bien. Il est dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante, abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « Ah, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Nous y reviendrons dessus, mais vous le comprenez bien que si le Seigneur a été poussé à dire à ses disciples que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, c'est parce que d'abord, il a vu cette foule. Une foule donc, je regarde ce texte, hein, languissante, abattue, donc un peu troublée, apeurée, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où il leur dit aux disciples, « Ah, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Et puis, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le deuxième passage, et je trouve que c'est, en tout cas pour moi, dans le deuxième passage, une suite logique. Si Dieu nous dit ici, notre Seigneur Jésus-Christ dit, voilà que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il faut que l'on comprenne donc qu'il faut plusieurs d'entre nous, que nous soyons appelés à un ministère particulier. les personnes ne peuvent pas venir à une repentance. Les personnes ne peuvent pas être convaincues de péché. Les personnes ne peuvent pas se repentir s'il n'y a pas des hommes qui sont là pour prêcher cette parole. Et c'est pour cela que le deuxième texte, je vous invite à prendre Romains chapitre 10. Merci. Romains chapitre 10. Et puis, nous resterons de nouveau dans les lettres et nous irons donc à Éphésiens chapitre 4, notre passage bien connu. D'abord, Romains chapitre 10. Chapitre 10. Voilà ce que l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, écrit cette lettre à cette première église de Rome. Je le dis chaque fois, ça n'a rien à voir avec l'église de Rome d'aujourd'hui, vous l'avez compris. Et à cette première église de Rome, voilà entre autres ce qu'il dit ici de la part du Seigneur. Je suis au verset 13, Romains 10, 13. « Car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. » C'est beau. Comme tu l'as dit, Robert, ce matin, ce quiconque, n'est-ce pas? Ne pas l'oublier. Mais voilà, pour que des gens invoquent, supplient le Seigneur, qu'est-ce qu'il faut? Comment donc invoqueront-ils? Celui en qui ils n'ont pas cru? Et puis comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, « Ah, qu'ils sont beaux !» Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais, c'est vrai, tous n'ont pas cru à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe, dit-il, Ésaïe 53, il dit, « Mais qui a cru à notre prédication ?» Ainsi, et c'est ça où nous avons l'explication, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, donc prédication, des prêcheurs, des hommes qui vont répondre à l'appel du Seigneur. Parce qu'il est dit, la foi vient de ce qu'on entend, prédication, et de ce qu'on entend vient la parole de Christ. Alors évidemment, je te rejoins carré quand tu as dit, oui, nous prêchons la Bible, la parole de Dieu. N'ont-ils pas entendu? Mais bien sûr, au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. D'après une statistique que j'ai lue il y a quelque temps, il n'y aurait que 7% de la population qui n'a pas entendu d'une manière ou d'une autre au moins un extrait de la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est dit, et cette parole est allée jusqu'aux extrémités de la terre. Mais cela nous montre une prophétie qui s'accomplit petit à petit. Il est dit, quand cette bonne nouvelle sera prêchée au monde entier, alors viendra la fin. Et je crois qu'il ne faut pas rater cette fin. Il faut que l'on réponde à l'appel de Dieu pour être dans ses prédicateurs. L'appel de Dieu. Je voudrais aussi insister sur, on le reverra tout à l'heure, mais tout à l'heure, j'aurai à cœur de prendre ces versets 14 et 15 à l'envers. Je vous expliquerai. Mais déjà, pensez-y. Et le troisième passage, oui, nous sommes tous ouvriers du Seigneur. Oui, nous sommes tous appelés à un ministère particulier. Mais voilà ici des ministères particuliers, c'est Éphésiens chapitre 4. Et nous allons voir, mais vous le savez aussi, vous savez très bien pourquoi Dieu a fait le don. Et donc, à partir qu'il y a un don, il va y avoir un ministère, un don particulier de quoi? Il est dit ici, verset 10, Éphésiens 4, 10. Celui qui est descendu, le Seigneur, ben c'est le même qui est monté au-dessus, dans les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné, donc déjà pensez-y, l'appel, le don, et après un ministère. Il a donné les uns comme apôtres, missionnaires, les autres comme prophètes. Prophètes surtout dans le sens de 1 Corinthiens 14, celui qui exhorte, qui encourage, qui édifie, n'est-ce pas? Comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et pourquoi il a fait ce don? pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et c'est là où, après le don, voilà le ministère, en vue du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Et regardez, bien sûr, et c'est le thème depuis des dizaines d'années de nos conférences de l'Ascension, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire donc sa force, pardon, qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Que le Seigneur nous dirige pour faire un lien de ces trois passages. J'ai été conduit sur ces trois passages. J'espère que tout vienne du Seigneur.
Amen.
Que je puisse donc m'arrêter avec vous sur chaque passage et qu'il puisse, c'est vrai, nous édifier, nous appeler à lui. Quand on a vu, c'est vrai, le premier passage où il est parlé de cette foule sans berger. Je disais tout à l'heure que je suis quand même troublé depuis quelque temps de voir l'état de l'Église évangélique en France. De voir et de connaître au travers de documents, de journaux évangéliques ou autres, de voir aussi l'état des églises, de l'Église du Seigneur dans le monde. Et je me suis rappelé que dans la parole de Dieu, Dieu compare l'Église à trois choses. Un troupeau, un corps humain, un édifice. Quand je parle du troupeau, bien sûr, je fais référence à ce passage de Matthieu chapitre 9, verset 37, où, ne l'oubliez pas, j'insiste, si le Seigneur dit, il y a peu d'ouvriers dans la moisson, c'est que d'abord il a vu cette foule languissante, cette foule perdue, cette foule où il n'y a pas de berger, ce troupeau qui est là. Je me suis rappelé du passage quand l'apôtre Paul a Milé, en Asie mineure, il réunit, acte 20, tous les anciens, tous les évêques de tout le coin, de toute l'Asie mineure, et il va les exhorter une dernière fois, parce qu'il sait qu'il ne va plus les revoir. Et puis, il leur dit, n'oubliez pas que le Saint-Esprit vous a établi évêque sur le troupeau, et que vous devez le diriger. Il leur dit, n'oubliez pas qu'il y a des loups ravisseurs qui vont attaquer ce troupeau. Et depuis 20 siècles, l'Église du Seigneur est de temps en temps attaquée par des loups ravisseurs. Qui, puisque nous représentons différentes églises, qui peut dire qu'une église n'a jamais a été épargnée par des loups ravisseurs? Nous avons lu tout à l'heure que nous ne soyons pas des enfants emportés à tout vent de doctrine. Et c'est là où, comme il y a un manque de ministère de prédicateur, c'est là où on comprend que il y a tout d'un coup ce vent nouveau qui souffle. Et voilà que nous sommes emportés à tout vent de doctrine. Le troupeau. Paître le troupeau. Pourquoi paître le troupeau? Une bonne nourriture. Un berger qui est là. Un troupeau, j'ai noté, apeuré. Parce que on ne sait plus. Tout d'un coup, une nouvelle doctrine arrive et on est là et on ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'il manque un pasteur, un berger, un prédicateur. C'est pour ça qu'il y a cet appel. Cet appel. Je pense à, bien sûr, une nourriture saine. Est-ce que nous y pensons à cela? Et puis, je vous disais, c'est vrai, il me semble que dans 1 Corinthiens, chapitre 3, mais des passages aussi comme 1 Pierre, chapitre 2, verset 4, et j'en oublie peut-être, l'Église du Seigneur est comparée à un bâtiment, à un édifice. La Bible dit que nous sommes des pierres vivantes et que nous sommes là, posés sur les fondements déjà. Éphésiens chapitre 2 et chapitre 2. Le fondement, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus-Christ, des apôtres, des prophètes. Et voilà que l'édifice commence à grandir. Et tout d'un coup, patatrac, c'est la catastrophe. Une partie du bâtiment tremble. Une partie du bâtiment s'écroule. Et là, c'est encore le ministère, n'est-ce pas, de chacun de nous, et le ministère peut-être en particulier d'un pasteur qui est là, pour rebâtir. D'un côté, la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 3, nous sommes ouvriers tous avec le Seigneur, et de l'autre côté, c'est vrai, nous venons de le voir, Dieu peut-être qualifie certaines personnes, certains ouvriers, d'un don spécial. Mais voilà! Est-ce que ceux-là ont répondu à cet appel du Seigneur? Est-ce qu'ils exercent, deuxièmement, ce don dans un ministère? Troisièmement, je vous disais, oui, l'Église est comparée à un corps humain. 1 Corinthiens chapitre 12. Différents membres et tous dans un même corps. Il est là. Et combien de fois dans nos églises, le corps de cette Église est touché, est malade, est infirme. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui se casse. Et voilà, s'il n'y a pas à ce moment-là un berger, s'il n'y a pas un prédicateur, un homme de Dieu, s'il n'y a pas l'exercice de ce don dans un ministère, voilà que l'Église reste malade. Ce corps reste malade. J'ai noté que malheureusement, dans nos églises, il y a, puisque le Seigneur compare notre Église à un corps humain, il y a beaucoup de maladies de cœur, cardiologie. Il y a beaucoup de rhumatologie, des douleurs partout dans l'Église. Il y a beaucoup, si vous permettez, de traumatologie. Un qui tombe par-ci, par-là. On casse, il faut réparer. Il y a, j'ai l'impression, dans nos églises, un service d'urgence qui marche en permanence. Je ne sais pas, je m'adresse surtout à ceux qui ont la responsabilité d'une église, mais je suppose que c'est comme moi, vous recevez des coups de fil en semaine, où vous avez des visites à faire urgence. Ça sonne à n'importe quel moment, on vous appelle urgence. Oh, pourquoi? Pourquoi? D'un côté, l'église du Seigneur, c'est vrai, elle souffre. Elle doit grandir dans cette souffrance. Mais de l'autre côté, est-ce que nous voulons tous devenir des hommes faits à la stature de Christ?
Amen.
Un des prédicateurs un jour a dit, il faudrait uniquement un seul service dans nos églises, un service de maternité. Ça veut dire quoi? Il y a toujours des nouveaux-nés dans le Seigneur. N'est-ce pas?
Amen.
C'est ça. Et ça, il le faudrait. Il le faudrait en permanence. Oui, il y est, mais peut-être pas assez. Il n'y a pas assez de nouveau-nés. Alors, voilà l'état de l'Église du Seigneur. Un troupeau attaqué par des loups ravisseurs. Un bâtiment, un édifice qui est touché. Je suppose, comme moi, que vous avez en mémoire ces images que nous voyons depuis une dizaine de jours de ce qui s'est passé au Népal. Et quand on voit ces parties de bâtiments qui se sont effondrées, on est là et on dit, Seigneur, préserve la France d'une telle situation. L'Église, parfois, c'est comme cela. Il y a toute une partie de l'Église qui s'écroule. Et tout est à reconstruire, à édifier. Puisque de temps en temps, je vais donner mon témoignage personnel. C'est ce qui nous est arrivé à Toulouse il y a 3 ans. Gloire à Dieu, ça y est, ça se reconstruit. Mais vous savez que c'est des moments de pleurs, de grandes souffrances. Et on édifie, on reconstruit ensemble. Et puis, oui, je pense à ce corps humain. Je ne sais pas si vous avez regardé ces derniers temps, je ne sais plus sur quelle chaîne, il y en a tellement de chaînes de télévision. Mais une documentaire qui s'appelait Urgence. Et on a vu les urgences des hôpitaux de Marseille, Montpellier, de Toulouse. Oh là là, c'est incroyable. Je sais que certains vous travaillez dans le milieu médical, mais c'est incroyable. C'est urgence qui arrive. Des accidents de toutes sortes. Des personnes qui ont voulu mettre fin à leur vie. Les urgences qui sont là. Ben écoutez, l'Église, malheureusement, est un peu dans cet état. Il y a des urgences de toutes parts. Et alors, je reviens sur le premier texte, sur ce premier texte, où dans Matthieu chapitre 9, verset 36-37, on voit Christ qui est ému de compassion. Et je crois un des points pour que l'on ressente l'appel du Seigneur, il faut que l'on soit ému de compassion. Si on a une vision du monde actuel, on ne peut être ému que de compassion. Et c'est à ce moment-là où nous ressentons à nous ce que Philippiens chapitre 2, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Est-ce que nous avons uniquement des sentiments humains ou est-ce que j'ai les sentiments forts de la part du Seigneur? Je ne peux pas établir une liste, mais au travers de l'évangile de Matthieu, au temps de Marc, de Luc, de Jean, combien de fois le Seigneur a été ému de compassion. Et c'est ça qui nous manque. Si nous étions sensibilisés par le désastre qu'il y a dans ce monde, alors oui, nous répondrions entre autres à l'appel du Seigneur. Mais dans ce même passage, ému de compassion, une foule languissante, une foule abattue, mais qu'est-ce qui s'est passé, n'est-ce pas? La vision de cette foule, oui, mais en même temps, regardez dans ce texte, la vision de une moisson qui est là devant les yeux. Et ça peut-être que nous l'avons pas, cette vision. Je vous rappelle ce passage, puisqu'on parle de vision, quand notre Seigneur Jésus-Christ a parlé longuement, vous le savez, avec cette femme en Samarie. On l'a toujours appelée la femme samaritaine, bien évidemment, elle est de Samarie, n'est-ce pas? Mais on n'a jamais su son prénom, mais bien. Mais en tout cas, le Seigneur essaye de sensibiliser les personnes de Séchar qui sont là, et surtout de sensibiliser les disciples. Et il leur dit, puisque nous sommes en plein dans la moisson, et vous connaissez ce passage, mais je vous le rappelle, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, voici, moi, je vous le dis. Levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème comme celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Et je crois que nous avons perdu de vue qu'il y a devant nous un grand champ de moisson. Je ne sais pas, vous en plus ici à Paris, dans toute la Malie, vous avez des millions de personnes. Nous en sommes à peine peut-être à 700 000, 800 000 avec la grande banlieue de Toulouse. Mais laissez-moi vous dire que quand on sort dans les rues de Toulouse, que vous voyez les gens qui sortent des stations de métro de partout, mais il y a de quoi. Il y a de quoi aller vers les personnes et leur parler, leur donner une brochure, pourquoi pas un évangile, et de revenir là. Ils sont là. Mais voilà, il manque des moissonneurs. C'est toujours le même problème. L'appel. Si nous, cet après-midi, ce matin, si nous sommes sensibilisés par cet appel du Seigneur, c'est parce que il faut d'abord qu'on ait cette vision de ce troupeau qui est languissant, abattu, troublé. Et la moisson, donc, est grande. Est-ce que je veux rentrer dans cette moisson? Ah, peut-être que, oui, tu vas semer. Et alors, évidemment, tu ne verras pas croître. De toute façon, c'est le Seigneur qui fait croître. Vous vous rappelez? N'oubliez pas, hein, Corinthiens chapitre 3. Alors non, évidemment. Mais peut-être que tu vas moissonner là où quelqu'un avait déjà semé. Mais au moins que ça ne se perde pas. Amen. C'est surtout ça. Il n'y a rien de plus terrible, n'est-ce pas, quand un agriculteur rate le moment de la moisson. Parce que tout d'un coup, la surprise, il y a un orage, il y a une grêle. Et voilà, il ne s'était pas décidé avant, et la moisson est perdue. Et je ne voudrais pas qu'il y ait une perte. Il faut qu'on réalise cela, n'est-ce pas? Il y a ce verset de Jean chapitre 9, verset 4, où il est dit, « La nuit arrive où nul ne pourra travailler. » Et je crois que cette nuit arrive de plus en plus. Les ténèbres deviennent épaisses. Le péché surabonde partout. Et je crois qu'il faudrait qu'on soit ému de compassion. Voilà un des points pour réaliser, tu es appelé, appelé par le Seigneur. Je termine en disant, puisqu'on parle de moisson, attention, attention à la dernière moisson. Quand je lis des passages prophétiques comme Matthieu 13, 39, et dans l'Apocalypse où il est parlé de la vendage et de la moisson, Matthieu 13, 39, je vous rappelle ce que Dieu dit ici, c'est le fameux passage où notre Seigneur Jésus-Christ parle de ce semeur, de cette semence, la bonne nouvelle, et on a oublié la fin de cette parabole, ne pas l'oublier, Matthieu 13, je lis juste à partir du verset 38, le champ, c'est le monde. La bonne semence, ben ce sont les fils du royaume. Livré, ben ce sont les fils du malin. L'ennemi, ben qui l'a semé, c'est le diable, évidemment. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Et si on allait dans l'Apocalypse 14, on verrait. Est-ce que nous attendons tous cette dernière moisson? Ou est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons une moisson des âmes? C'est surtout ça, vous comprenez? Et je crois que c'est ça qui devrait donc déclencher en nous le désir de répondre à l'appel du Seigneur. Et puis, le deuxième passage que nous avons vu, je reviens donc sur ce Romains chapitre 10, et je vous ai dit, il me semble que, sans vouloir être anti-biblique, pas du tout, mais il me semble qu'il faut le comprendre, il faut le prendre à l'envers. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Prenez Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Bien. Alors, Romains chapitre 10, nous avons commencé avec le verset de 13. Quiconque invoque le Seigneur sera sauvé. Mais comment invoquera-t-il? Évidemment, si personne ne parle là, comment invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas cru? Eh bien oui, mais pour croire? Ben, il faut une prédication. Il faut entendre la parole de Dieu. Et puis, comment entendront-ils la parole de Dieu? Ben, si personne ne prêche. Évidemment, prêcher à égale prédicateur. Alors, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la paix? Alors, permettez-moi de le prendre à l'envers, le passage. Il faut, un, des prédicateurs qui sont envoyés. Deuxièmement, alors si les prédicateurs sont vraiment dans leur ministère, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont prêcher. Donc, ça veut dire que, troisièmement, on va entendre le message. Et c'est à ce moment-là, ah, ça y est, ils vont commencer à croire. Et en croyant, ils vont invoquer le nom du Seigneur. Amen. Vous comprenez? Et c'est ça le point de départ. Et c'est pour cela que l'appel est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un, ce matin, qui dit oui? Je crois que le Seigneur m'a appelé plus d'une fois. Je me sens nul, je me sens faible. Amen. Eh bien, c'est très bien. Parce que la Bible dit que le Seigneur a pris les choses les plus viles, les plus inutiles, les balayures du monde, dit l'apôtre Paul, pour en faire des hommes de Dieu. C'est ça qu'il y a de formidable. Alors, j'insiste, et c'est Dieu qui insiste, qui est appelé comme prédicateur? Qui répond à cet appel? Je le rappelle, l'ordre de Dieu. Un, c'est l'appel. Deux, c'est le don. Trois, le ministère. Et une des choses qui est catastrophique dans certaines églises, c'est que quelqu'un commence par un ministère, alors qu'ils n'ont pas le don, et il n'y a pas eu d'appel. Vous comprenez? Et je ne veux juger personne, mais c'est juste une constatation depuis plusieurs années. Et peut-être que c'est ça une des catastrophes dans certaines églises évangéliques d'aujourd'hui. C'est qu'il n'y a pas eu d'abord l'appel. Vous l'avez vu, tout à l'heure on le traitera dans Éphésiens chapitre 4. L'appel, et puis Dieu donne. Et puis troisièmement, le ministère qui est là. Répondre à l'appel. Restons un instant donc sur ce passage hein, où je me suis permis de le prendre à l'envers et vous comprenez pourquoi. On ne peut pas invoquer le nom du Seigneur si d'abord je n'ai pas entendu l'évangile. Si d'abord je n'ai pas entendu la parole de Dieu, l'évangile. Et c'est à ce moment-là où l'Évangile travaille en nous. C'est le Saint-Esprit qui travaille en nous. Et la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est pas moi. C'est pas un homme. C'est le Seigneur au travers du message de l'Évangile. Où, ça y est, la prédication. Pourquoi j'insiste sur la prédication? Ben, c'est parce que l'apôtre Paul lui-même le dit dans 1 Corinthiens chapitre 1. Que c'est par la prédication de la croix que des hommes vont venir à la connaissance de Christ. La prédication, la folie de la prédication de la croix. Et l'apôtre Paul ajoute, et c'est très important, 1 Corinthiens chapitre 2, il dit qu'il n'a pas essayé de faire une démonstration de la sagesse humaine, mais une démonstration de l'Esprit en lui. Et c'est pour cela que des milliers d'hommes, de femmes, de jeunes sont venus au Seigneur pendant les 33 ans, je crois, de ministère de Paul. Des milliers sont venus. Il a bâti des dizaines et des dizaines d'églises. J'ai l'habitude d'avoir ici une carte géographique. Elle n'est pas. Bon. Sinon, je vous ai montré toutes les églises que Paul a fondées. Mais c'est, oh là là, c'est inimaginable. Si Christ n'avait pas été là, mais il n'aurait pas pu le faire, hein, Bernard, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais pourquoi? Mais parce que il dira lui-même dans Actes chapitre 20, quand je vous parlais qu'il avait réuni les anciens de Éphèse et de toute la région, il a dit, moi, je ne fais aucun cas de ma vie. Je ne fais aucun cas de ma vie. Et il se donnait à fond pour le Seigneur. Et c'est pour cela que Dieu a pu l'utiliser comme un instrument. Oh, je sais, Actes chapitre 9, quand il a été appelé par le Seigneur, Ananias lui dit de la part de Dieu, c'est un instrument que j'ai choisi. Choix, le choix, la paix, c'est pas, que j'ai choisi pour apporter cette nouvelle à tous les enfants d'Israël, à toutes les nations, au roi, au gouverneur, et tout s'est accompli. Bien, alors, important, la prédication qui est là. Pourquoi la prédication? Je vous parlais de Paul, d'accord. Parlons de Pierre, Actes chapitre 2. Le début de l'église, dans quelques jours on va célébrer Pentecôte. Et dans Actes chapitre 2, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, figurez-vous que j'ai retrouvé que dans sa prédication, il rappelle ce que le prophète Joël avait dit. Celui qui m'invoquera sera sauvé. Joël chapitre 2. Ah mais, tiens, mais on le retrouve là aussi. L'invoquer? Ben oui, mais pour invoquer! Ça c'est le début de sa prédication. Qu'est-ce qu'il faut qu'il prêche? Et il commence à prêcher. Christ mort pour nous. Christ ressuscité. Christ qui pardonne les péchés, qui nous purifie, Christ qui nous appelle au baptême. Et voilà la conversion. Si on lisait Actes chapitre 2 à partir, je crois, du verset 37 et les suivants jusqu'à 47, on verrait cette repentance, ce cri de désespoir de ces hommes. Quand ils entendent la prédication, ils disent à Paul, mais que ferons-nous, frères? C'est là où on voit l'action du Saint-Esprit, amen, n'est-ce pas? Et Pierre leur dit, ben, repentez-vous. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la Bible dit que ce jour-là, il y en a eu 3000. 3000 qui se sont repentis. Ça, la prédication. Je vous parlais de la prédication de Paul, deuxièmement de Pierre. Je pense à la prédication, troisièmement, d'un Jean-Baptiste. Combien d'hommes, de femmes se sont repentis pendant les prédications de Jean-Baptiste. La Bible dit même à Matthieu chapitre 4 que des pharisiens venaient à lui. Les pharisiens, sans doute la secte la plus dure à cette époque-là. Et puis ils étaient là et ils arrivaient. Et alors Jean-Baptiste se méfiait et leur dit « race de vipères ». Alors ils étaient bien sûr, ils étaient déjà troublés par cette appellation. Et puis non, c'était sincère, ils venaient. Et il voulait se repentir. C'est ça, la prédication. Et alors, à ce moment-là, évidemment, ça y est, on entend, vous avez lu, plutôt, on entend, et puis, la parole de Dieu, bien sûr, la parole de Dieu, ah oui, on aimerait bien qu'elle soit du miel, on aimerait bien qu'elle soit, oh là là, qu'elle soit une lumière, qu'elle soit du pain. Oui, mais la parole de Dieu est un marteau, hein. La parole de Dieu est un feu. La parole de Dieu est une épée. Oula! Alors là, ça fait mal! Et c'est à ce moment-là où vraiment on laisse la parole de Dieu aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Et c'est à ce moment-là où il n'y a pas de problème. Il va y avoir une repentance sincère.
une confession des péchés. Et c'est à ce moment-là, comme nous l'avons en entendant, la foi arrive. Ça y est. Est-ce que je réponds à cela? Pourquoi? Pourquoi l'importance de la prédication? Parce que la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3, il dit que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et c'est ça le problème de beaucoup d'églises. Pardonnez-moi, je vous le dis, je ne critique aucune église évangélique. C'est Dieu qui jugera. Et c'est une constatation que je fais, où malheureusement, parfois je tombe vers des personnes dans mes connaissances où on sent qu'elles veulent entendre sans arrêt des choses agréables. Oui, mais c'est pas ça. Je dois être agréable à Dieu.
Amen.
Et non pas être agréable à moi, n'est-ce pas? Et c'est ça un des désastres de nos églises. Oui, mais il faut que la prophétie s'accomplisse. Alors non, je ne veux pas. Je ne veux pas entendre des choses où j'ai la démangeaison de l'entendre. Non, pas du tout. Je veux la saine doctrine. Je veux, comme Paul le disait à Timothée, 1 Timothée chapitre 4, de se nourrir de la bonne doctrine, de la saine, cette bonne doctrine abondante qu'elle a. Oui, mais deuxième point aussi, et c'est un deuxième avertissement puisque nous sommes à la fin des siècles, il ne faut pas oublier qu'un des points aussi des derniers temps concernant l'Église, il est dit, 1 Timothée 4, pour ceux qui notent, 1 Timothée 4 verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alors on peut se demander comment quelqu'un peut s'attacher à une doctrine de démons. Mais est-ce qu'on a oublié que Satan est l'ange de lumière? Est-ce qu'on a oublié que Satan avec ses anges... C'est la séduction en premier. La Bible dit qu'un jour on appellera lumière ce qui est ténèbres. Et qu'on appellera donc bien ce qui est mal. Et qu'on appellerait mal ce qui est bien. La confusion générale, nous y sommes. Ça y est, c'est pas la peine, on y est. Alors, je comprends. La prédication de l'évangile, combien cela est important. Et puis, oui. Je continue. On arrive à ce dernier passage. Et peut-être que là, on va s'arrêter un peu plus. Donc, dans Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. Les dons, ne l'oublions pas, tout don vient de Dieu. Il faut se rappeler de ce Jacques, chapitre 1, où il est dit tout don, excellent, vient de Dieu. Vient du Seigneur, vient d'en nous. L'appel, le don, le ministère. Oui, je donne mon témoignage personnel pour que peut-être vous compreniez un peu. Parce que, merci Seigneur, j'ai été un peu comme toi, Robert. Je remercie le Seigneur de ce que je suis né dans une famille qui connaissait le Seigneur. Oh, j'avais pas compris certaines choses. Tiens, je vais vous donner encore un témoignage. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je m'appelais Samuel. Alors, vous comprenez, hein, nous sommes dans les années 50 et quelques. Et me voilà à l'école publique. Et me voilà dans les classes. Lui, il s'appelait Roger, l'autre Gérard, l'autre Michel. Et toi, tu t'appelles comment?
Samuel.
Mais je le disais, évidemment, je le disais un peu avec honte, je comprenais pas. Tu t'appelles comment? Oh, il fallait le répéter, bien sûr, au moins deux fois. Samuel. Amen. Le jour où vraiment le Seigneur m'a travaillé, j'ai compris pourquoi. Merci Seigneur. Amen. Et merci à papa et maman qui sont auprès du Seigneur, de ce qu'ils m'ont appelé Samuel.
Amen.
Parce que maman a attendu 3 ans pour m'avoir. Et pour elle, c'était important qu'elle m'appelle Samuel. Dieu, n'est-ce pas, qui a répondu, qui a exaucé. Mon frère Daniel, etc. Point. Bon. Très bien. Alors, vous savez ce que c'est. Et je me rappelle toujours, et je remercie le Seigneur d'avoir utilisé un ancien de l'Église évangélique espagnole qui s'appelait Joaquin Garcia. Et alors, vous savez comment on est quand on est petit. On vous interroge. Je crois que j'avais 6 ou 7 ans. Et puis, Qu'est-ce que tu veux devenir, Samuel ? Alors je me rappelle que j'avais dit, je veux être ministre. Et alors vous savez ce qu'a été la réponse ? Ce qu'a été la réponse de ce frère Joachim, et ça me parle encore aujourd'hui, il m'a dit calmement, mais sans doute poussé par l'esprit, eh bien, que tu sois ministre du Seigneur.
Amen.
Et amen. Et ça, ça m'est resté. Et quand j'ai entendu l'appel du Seigneur, ça y est, j'ai compris. Que tu sois ministre du Seigneur. Bien. Et voilà que les années passent. Et voilà que oui, j'ai eu une formation de ce qu'on appelait à cette époque-là comptable mécanographe, puisqu'il n'y avait pas d'informatique. Et me voilà comptable. Bien. Bien, me voilà dirigé vers les assurances. Bien. AGF qui a été avalé par le groupe Allianz. Bien. Et me voilà dans l'administratif, tout ce que vous voulez. Et puis, j'étais là dans les assurances depuis 4 ou 5 mois. Et je rencontre un chrétien qui, très sincèrement, bien sûr, me dit, écoute, vu ta formation, je connais un huissier de justice, et il cherche quelqu'un pour le former comme clerc de justice. Tu serais pas intéressé? Quand on parle de justice, d'huissier, vous voyez ce que c'est. Alors, j'étais là, rue Croix-Baragnon, tu vois où c'est, Tim. En plein centre, vous savez, c'est une des rues de Toulouse, il n'y a que des avocats, des huissiers et tout ce que vous voulez. Alors, évidemment, on est intéressé par ça. Non. Un autre appel. J'ai toujours aimé le journalisme. Et j'ai failli rentrer dans une école de journalisme. J'aurais voulu être un reporter, etc. Être peut-être dans une radio. Ça n'a pas marché. Des blocages chaque fois. Me voilà continuer donc aux AGF. Et puis, je remercie le Seigneur, parce que je sais que vous connaissez cet homme de Dieu, qui est aujourd'hui sans doute à 90 ans, Arthur Somerville. C'est lui qui, petit à petit, dirigé par le Seigneur, va me conduire à Samuel. Je crois qu'il faut que tu ailles un peu plus loin dans la connaissance de la Bible. Samuel, je crois que le Seigneur t'appelle. Et puis ça travaille, ça travaille. Et petit à petit, j'ai répondu. Alors bizarre, parce que, évidemment, le frère Somerville, souvent à côté de moi, comme il a été à côté de d'autres, hein, bien d'autres, hein, en train de nous dire, étudie ceci, cela. Viens, prends des cours. L'école biblique était à Toulouse à ce moment-là. Et puis, on continue dans des cours. Alors, on est là. Et puis, comme j'étais souvent avec lui, il m'a étonné parce que la première chose qu'il m'a dit de faire dans l'église, c'était un samedi après-midi, j'étais là. Samuel, viens. Je vais te montrer comment on range les chaises. Alors, j'ai dit, bon, d'accord, pasteur, je ne sais pas. Et puis, il m'a appris à ranger les chaises dans la salle que vous connaissez, peut-être que vous le connaissez tous, donc, Place Wilson à Toulouse. Voilà un de mes premiers ministères. Et puis, le Seigneur a dirigé, a conduit pour que, amen, que Dieu permette que l'année prochaine, je puisse faire ces 40 ans de ministère. Mais je voulais vous donner ça pour vous montrer les tiraillements que nous avons. Ne croyez pas, et si chacun témoignait, ne croyez pas que c'est facile de répondre, de dire oui, Seigneur. Vous comprenez? Et c'est pour cela que ici, il ne faut pas oublier que c'est un don qui vient du ciel. Ça veut dire donc que tout ce qui est préparé par Dieu, tout est bon, tout est parfait. Il n'y a rien à toucher. Et il donne. Et il donne ici un ministère d'apôtre. Je voulais expliquer comment. Dans le Nouveau Testament, un ministère de missionnaire, un ministère d'évangéliste, un ministère donc de pasteur et de docteur, pour le perfectionnement des saints. L'importance, la voilà. L'importance, je me suis dit, puisque je vous ai donné ce simple témoignage, et pardonnez-moi si peut-être j'ai été maladroit en train de vous donner mon témoignage, mais l'importance à ce moment-là, c'est de répondre à la volonté de Dieu. Je me suis aperçu dans la Bible qu'il y a 4 volontés. Et c'est pour cela que nous avons des combats. Il y a la volonté des autres. il y a la propre volonté à soi, il y a la volonté du diable qui est là et qui nous influence. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Et quatrièmement, amen, il y a la volonté de Dieu. Et si on avait le temps d'étudier ces quatre volontés qui sont décrites dans la Bible, est-ce que vous vous rendez compte le conflit que nous avons parfois? Et c'est pour cela que il faut, dit la Bible, 1 Corinthiens chapitre 12, un esprit de discernement. Il faut parfois prier. Il faut pas, peut-être même jeûner. Je pense à ce qui s'est passé dans l'église d'Antioche, Actes chapitre 13. Si aujourd'hui on dit, mais amen, quel homme formidable, Paul et Barnabas. Oui, mais dans Actes 13, il est dit que pendant plusieurs jours, l'église a prié, a jeûné, et tout d'un coup, le Saint-Esprit a dit, oui, parmi les 6-7 là, vous me mettez à part ces deux. Et c'est là où commencent les premiers, deuxième, troisième voyages missionnaires d'un Paul et d'un Barnabas. Vous comprenez? C'est que parfois, c'est vrai, c'est très important de répondre à l'appel du Seigneur. Mais il y a cette lutte de ces quatre volontés qui sont là. Et de dire quoi, Seigneur? Oui, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, si on regarde cette foule, si on voit l'urgence, alors on dit, oui, non, il y a urgence, Seigneur. Je veux que pour le reste du temps qui me laisse à vivre, je ne sais pas, Seigneur, combien de temps tu me laisses, mais je ne veux plus perdre le temps. Je veux racheter le temps. Éphésiens chapitre 4. Si ça peut vous aider, je vais vous donner vite fait, je ne vais pas être long, rassurez-vous, mais je vais vous donner quatre noms qui sont dans la Bible et vous allez peut-être vous y reconnaître. Jonas, 2, Ésaïe, 3, Moïse, 4, Samuel. Pourquoi? En deux mots. Répondre à l'appel du Seigneur. Peut-être que certains m'ont dit, déjà dans leur vie, oui! Mais après, c'est ma propre volonté qui a dominé. Et ça, c'est Jonas. Jonas, oui, je vais à Ninive. Oui, mais on ne sait pas pourquoi il se trompe de bateau. Moi, j'ai compris, n'est-ce pas? C'est sa volonté à ce moment-là. Au lieu de partir à Ninive, voilà qu'il s'en va ailleurs, n'est-ce pas? Et souvent, nous sommes comme cela. Pardonnez-moi, mais s'il y a quelqu'un qui est dans ce cas-là, qu'au moins vous puissiez prendre le bon bateau cet après-midi, que vous disiez, oui Seigneur, je te demande pardon, parce que je t'avais dit oui, mais après j'ai fait ma volonté. Deuxièmement, je pense à Moïse, l'appel de Moïse. Vous connaissez le passage de Exode 4, verset 10. Moïse appelé par le Seigneur. Et puis, c'est à ce moment-là où, tout d'un coup, on a plein d'excuses. Et alors là, Moïse, vous savez, l'excuse qu'il avait, il a dit, Éternel, mais tu ne me connais pas. Mais j'ai jamais parlé correctement. J'ai toujours un accent terrible. Vous voyez de qui je veux dire. Je n'arrive pas à prononcer des mots, etc. Seigneur, donc, Exode 4, 10, choisis quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Et c'est là où Dieu est obligé de lui dire, mais c'est pas moi, c'est pas toi qui vas parler. C'est moi qui vais remplir ta bouche. Vous comprenez? Et c'est là où l'excuse, elle s'effondre. Fini. Peut-être que c'est ça, l'excuse que vous avez eue. Troisièmement. Alors là, oui. Je pense à Ésaïe. Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Qui enverrai-je? Dit Dieu, n'est-ce pas? J'envoie qui? Et voilà quelqu'un qui se sent sale, impur, indigne de tout. Mais il se lève et Ésaïe dit, oui, je viens. Et le Seigneur va le purifier, le laver. Quel homme, cet Ésaïe? C'est lui, amen, qu'il ait répondu à l'appel. Parce que c'est lui qui va nous parler de Ésaïe 13. Qui va nous parler de Ésaïe 61, 66. Et j'en parle, et j'en passe. On a toujours considéré, vous le savez, le livre d'Ésaïe comme le cinquième évangile. Amen qu'il ait répondu à l'appel du Seigneur. Et puis, je termine par Samuel, et vous comprenez pourquoi. Parce que Samuel, 1 Samuel 3, 8, il a entendu trois fois Samuel, Samuel. Et chaque fois, il se trompe. Il va voir, il est, et puis il est jeune, bien sûr. C'est quelqu'un, vous savez, qui Moi, je me compare, pardon, un peu à lui, hein, juste un peu. Parce que lui, il a commencé par nettoyer les lampes du temple, n'est-ce pas, et de ranger. Moi, j'ai commencé par des chaises, alors je me vois là un peu comme lui. Mais rien de comparable, n'est-ce pas? Mais je reviens sur son appel, je reviens sur son appel. Peut-être que certains vous dites, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'appelle? Une fois, ça vous est arrivé. Deux fois. Trois fois. Et gloire à Dieu, que Dieu met toujours des hommes de Dieu dans notre chemin.
Amen.
Et Élie était là, il lui a dit, je vois qui c'est Dieu. Alors si tu l'entends de nouveau, Samuel, la voix, tu répondras, oui, ton serviteur. Et c'est ce jeune Samuel est devenu un juge en Israël, est devenu un sacrificateur, est devenu un prophète. Quel ministère, quand on regarde ce ministère d'homme de Samuel. Amen. Amen. Et c'est ça. Et je vous demanderai de méditer là-dessus. Pourquoi? Parce que peut-être que certains, vous hésitez depuis quelque temps, manquent de dis. Pourquoi pas essayer? Vous savez que dans la plupart des écoles bibliques, mais bien sûr je vais parler de cette école, il y a des programmes pour un âme. Pourquoi pas? Parlez-en à notre sœur Barbara qui est là. Et peut-être que vous dites, pourquoi pas? Pourquoi pas, Seigneur? Je voudrais me mettre à part pendant un an pour voir, Seigneur, si vraiment tu me choisis, si vraiment je ne fais pas d'erreur. Je veux passer du temps devant toi, à tes pieds. Je ne veux pas perdre de temps. Je ne voudrais pas, et je termine par ce verset que j'ai cité tout à l'heure de mémoire, mais cette fois-ci je vais vous le lire. Je ne voudrais pas que nous soyons dans ce cas où Jésus-Christ dit ici, je suis pour ceux qui notent dans Jean 9, 4, il faut que je fasse, pendant qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Et il ne faudrait pas que nous ayons cette honte telle que tu nous l'as décrit tout à l'heure, Robert, qu'en arrivant devant le Seigneur, ils sont obligés de nous dire, j'avais réservé pour toi telle ou telle récompense ou telle couronne, mais je ne peux pas. Tu as perdu ton temps. La nuit vient et nous surprend. Un dernier témoignage, vous savez que chaque année nous changeons d'horaire, et vous savez qu'au mois d'octobre on change tout d'un coup d'horaire, et on est surpris parce que, oh là là, la nuit arrive beaucoup plus vite. Et j'étais dans les rues de Toulouse au mois de novembre, où je me disais, oh, t'as le temps! Il était 5 heures de l'après-midi. Tout d'un coup, la nuit est arrivée. Je n'ai pas pu faire ce qu'il fallait que je fasse. Et je pense à ce verset. Il ne faudrait pas que la nuit vienne et nous surprenne, n'est-ce pas? Répondez à l'appel du Seigneur. Je vous le dis, même si c'est pour un an, vous dites, oui, je veux, Seigneur, répondre à ton appel. Baissons nos têtes et fermons nos yeux. Quelle est la volonté qui domine en nous? Oh, je sais, c'est des combats et des luttes. On l'a eu plusieurs fois, je l'ai eu. Mais je dis merci Seigneur parce que tu as triomphé. Apprenons à nous en remettre entièrement entre les mains du Seigneur. Je suppose comme moi que vous aimez beaucoup chanter ce cantique 292, entre tes mains j'abandonne tout ce qui est à moi. Mais que c'est dur de le chanter parce que on sait que parfois nous ne sommes pas trop sincères quand on chante ce cantique. Que le Seigneur fasse son œuvre à nous. Et que si le Seigneur nous appelle, il y ait un oui franc, un oui de notre part. Qu'on est devant moi, devant nous, pardon d'insister, cette foule languissante sans berger. Que nous ayons devant nous ces immeubles écroulés, démolis. Que nous ayons à nous ce service d'urgence qui est là, sans arrêt, 24 sur 24, il travaille. Alors que on aurait pu être peut-être plus prudent, beaucoup plus veillant. Seigneur, merci. Merci parce que je crois qu'au travers de ces trois passages, tu nous as montré beaucoup, beaucoup de choses et tu nous as rappelé beaucoup. beaucoup de choses. Merci. Merci parce que ta parole est vivante. Merci parce qu'elle est efficace. Alors agis une fois de plus en nous. Pour que nous répondions à ton appel. Conduis. Conduis, Seigneur, les heures qui vont suivre. Prépare notre frère Michael dans tout ce qu'il aura à dire de ta part. Oh Seigneur, bénis les partages, les conversations que nous aurons. Te le demandons par l'intermédiaire de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Amen.